explique les leçons de MeToo avec Clotilde Le Guil et Sabine Procoris. La psychanalyste Clotilde Le Guil consacre plusieurs pages de son livre « Céder n'est pas consentir » au mythe de Philomèle. Cette jeune femme d'une grande beauté est violée à l'abri des regards par son gros frère Térée, raconte Ovide dans les Métamorphoses. Stupéfaite et terrorisée, elle cède à la situation. Mais une fois l'acte accompli, elle retrouve ses esprits. Elle invective Térée et le menace de la vengeance des maux. C'est moi-même qui, foulant aux pieds toute pudeur, dirai ce que tu as fait. Si je suis retenue captive dans ces forêts, de mes plaintes j'emplirai les forêts et saurai émouvoir les rochers mes confidents. Puisse entendre ma voix l'éther et les dieux, s'il en est, ne fût-ce qu'un qui l'habite. Par ces paroles, Philomène déchaîne la colère de Térée. Celui-ci la punit de la pire des façons. Sa langue protestait encore, continuait à invoquer le nom de son père, faisait effort pour parler. Alors Térée, la saisissant avec des pinces, la coupa d'un brutal coup d'épée. Le 5 octobre 2017 éclatait l'affaire Weinstein. 80 femmes portaient plainte contre le producteur américain pour agression sexuelle et viol. Quelques jours plus tard, une actrice américaine, Alyssa Mialo, postait ce tweet. « Si toutes les femmes ayant été harcelées ou agressées sexuellement écrivaient moi aussi, nous pourrions peut-être montrer aux gens l'ampleur du problème. » Ainsi naquit le mouvement mondial MeToo. À Clotilde Le Guil et à Sabine Procoris, qui est également psychanalyste, je poserai donc la question suivante. Faut-il voir dans ce hashtag historique la revanche de Philomèle? Les femmes abusées sexuellement, nous disent-elles à travers MeToo, le temps du mutisme est révolu, jamais plus on ne nous coupera la langue. Ni la peur, ni la honte, désormais, ne nous réduiront au silence. Clotilde Le Guil.
Je rends hommage en effet à ce mythe d'Ovide dans mon livre, mais par rapport à un point très précis qui est la question du silence qui suit le traumatisme sexuel et de l'impossibilité de dire, même si on peut révéler ce qui a eu lieu. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé dans ce mythe, c'est la question de la langue coupée au sens métaphorique, c'est-à-dire au sens où dans le traumatisme sexuel, il y a un indicible. Voilà. Donc en fait, je distinguerais deux temps. Effectivement, le premier temps qui est un temps politique, qui est le temps de ce hashtag MeToo, que j'interprète plutôt comme un cri de colère, un mouvement en première personne du pluriel, un mouvement qui dit non. Et comme le dit Camus dans L'homme révolté, finalement, se révolter, c'est dire non, c'est-à-dire établir une frontière entre le sujet et l'autre. Mais ce premier temps, ce temps collectif, finalement, qui a une valeur politique et qui a produit un séisme, en effet, dans la civilisation, en faisant reconnaître l'ampleur, finalement, du phénomène de l'abus, et en faisant un problème de civilisation et dans tous les milieux, c'est-à-dire dans le monde du cinéma, dans le monde de la politique, dans le monde de la mode, dans le monde
dans
du
le
sport,
monde du théâtre,
dans le monde du
aujourd'hui.
Théâtre, dans le monde de l'Église, jusqu'au rapport Sauvé aujourd'hui. Donc là, il me semble que ça, c'est un des enjeux de MeToo. Mais pour moi, il y a un second temps logique, et c'est peut-être celui-ci qui a été à l'origine de mon désir d'écrire, qui est le temps où finalement on retrouve le jeu, on retrouve une interrogation sur l'ambiguïté d'un oui dans l'aventure amoureuse et sexuelle. Et c'est un temps finalement qu'on a vu advenir avec notamment le récit de Vanessa Springora paru en 2020. Et donc moi, ce qui m'a intéressé justement, c'est ce second temps comme finalement nous faisant entrer dans un registre beaucoup plus intime qui nous permet d'explorer les ressorts du consentement et peut-être qui nous arrache simplement à une perspective de guerre des sexes, mais qui produit une interrogation sur la différence entre l'amour et l'expérience de l'abus.
Oui, alors, cela dit, vous rendez hommage au début de votre livre à ce mouvement de libération de la parole des femmes via MeToo. Vous parlez aussi du témoignage marquant et courageux de certaines actrices comme Adèle Haenel, parce que il a fait surgir une vérité jusque-là silencieuse, l'ampleur de la pratique du harcèlement dans le monde du cinéma, etc. Et cela partout, all over the world. Et ensuite, en effet, vous explorez la dimension plus singulière, plus intime.
C'est ça. Oui. Ces deux temps logiques me semblent importants parce qu'effectivement, le premier temps, le temps du hashtag MeToo, disons, gomme aussi la singularité de chaque expérience. C'est-à-dire qu'il a un effet politique, mais il peut aussi avoir un effet finalement de disparition de la valeur d'une parole singulière sur ce qui a été vécu dans un traumatisme sexuel. C'est pour ça que j'ai accordé beaucoup d'importance à ce second temps qui est le temps du jeu.
D'accord. Alors, restons-en au premier temps. Je ne pense pas, Sabine Procoris, que vous soyez tout à fait d'accord sur son effet positif de libération de la parole, puisque votre livre, à vous, s'intitule « Le mirage MeToo », Sabine oui. Procoris.
Oui, bonjour. En effet, je partage pas absolument les positions de Clotilde Le Guil. Alors, la première remarque, puisque vous êtes partie du viol de Philomèle, et que voilà, c'est rattaché à ce mouvement MeToo, la première chose, c'est que toutes les personnes qui se réclament du mouvement MeToo ne sont pas des Philomèles. C'est-à-dire que le viol est un viol. En revanche, là, on l'a entendu tout à l'heure dans les nouvelles, il y a un certain nombre d'actes qui ne sont pas de même nature, qui sont enrégimentés sous la bannière de MeToo. Bon, ça, c'est une première remarque. Ensuite, dans votre commentaire du mythe de Philomèle, je ne crois même pas qu'elle cède, Philomèle. Je crois pas qu'elle cède, je crois qu'elle est forcée, c'est tout. Elle est forcée, ce n'est pas exactement la même chose que céder. Elle ne consent pas, c'est évident. Elle ne cède pas, je pense, elle est prisonnière, complètement forcée dans cette situation. Et je profite de cela, d'ailleurs, pour faire une petite remarque. C'est-à-dire qu'on nous dit, le mouvement MeToo et tout ce qui va avec, nous explique que nous baignons depuis des siècles dans la culture du viol. C'est-à-dire que le viol est une valeur, en quelque sorte, fondatrice. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait les mâles prédateurs et de l'autre côté, les agnelles proies, les prédateurs et les proies. C'est quand même étonnant de voir un texte d'Ovide où on ne peut pas dire que le viol soit considéré comme une chose merveilleuse. Pas du tout. Il est vraiment du côté de Philomèle. Alors ça, c'est quand même une première remarque parce que je crois qu'il faut indiquer un peu quelques petites... enfoncer un coin dans les évidences de MeToo, à savoir cette histoire de culture du viol dont on nous parlait dans les informations.
C'est pas un terme que j'emploie.
Non, je sais que vous ne l'employez pas, mais je parle pas de vous, je parle de MeToo.
Et le mythe de Philomèle, je ne le rattache pas à MeToo, je le rattache à la littérature, justement, au moment de la littérature, et c'est une...
Je peux terminer ce que
oui,
je disais.
Oui, c'est juste parce que vous me dites que je le rattache à MeToo.
Oui,
non,
c'est moi qui l'ai rattaché à MeToo.
Oui, et vous le rattachez
à la littérature.
Vous le rattachez quand même parce que vous commencez votre livre sur MeToo, en parlant de MeToo, et sur la question d'un des slogans de MeToo, c'est-à-dire « victime, on vous croit ». Et vous dites une chose, moi, qui m'a énormément... je dirais que ça m'a fait sursauter. Hein, quand vous avez dit « si on vous croit, alors vous pouvez dire, vous écrivez cela ». On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela, parce que vous pouvez dire si on vous écoute, si on vous entend. Si on vous croit, alors vous pouvez dire, là, j'ai un peu plus de mal, aussi bien au plan politique, ou social, ou judiciaire, qu'au plan intime, au plan de la cure de psychanalyse. La question, c'est pas de croire, c'est d'écouter et d'entendre. Bien. On reviendra là-dessus peut-être tout à l'heure. J'aurais terminé ce que je disais sur le mythe de Philomèle. Vous continuez votre commentaire d'une manière, moi, qui m'a un petit peu questionnée. Vous dites par ses paroles, parce qu'avant qu'on lui coupe la langue, elle parle, évidemment. Ensuite, vous expliquez comment elle arrive à dire quand même ce qui s'est passé par le biais de cette broderie. Donc quand même, la langue est coupée, il y a un silence, n'empêche que c'est signifié de façon tout à fait explicite par l'art. Vous dites, elle franchira la barrière de la pude, elle hurle sa vengeance qui sera de l'ordre d'un dire. Et là, c'est là que je m'interroge un petit peu parce que, est-ce que la vengeance, qui est un des fils, on va dire, vindicatifs quand même, MeToo, balance ton porc, il faut pas oublier balance ton porc, hein, qui vient juste la veille, est-ce que la vengeance, ça n'est pas également extrêmement pulsionnel? Ça l'est. Tout autant. Et donc, bien entendu que c'est quelque chose de tout à fait entendable et compréhensible, le désir de vengeance, mais si on revient à MeToo, dans un état de droit, au plan politique, on ne peut pas être sur le registre de la vengeance.
Oui, alors, en effet, le problème de « on vous croit », c'est une mise en cause de la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, vous citez Sabrine Procoris, Iris Bray, qui dit « Pourquoi est-ce que la parole d'une victime qui parle aurait de moins de valeur que la présomption d'innocence ? Ne faut-il pas interroger en profondeur notre système judiciaire avant d'invoquer la présomption d'innocence si nous croyons les femmes ?» Donc, c'est un peu la difficulté, en effet. C'est la différence, d'ailleurs, entre justice et vengeance, puisque la justice est fondée et sur la présomption d'innocence et sur le principe du contradictoire. Et l'un des problèmes de MeToo, c'est de contourner le tribunal judiciaire pour un tribunal médiatique où l'accusation, la condamnation et la punition se confondent en un seul geste. J'ajoute que Sandra Müller, en effet, a écrit « Balance ton porc » à peu près en même temps qu'éclatait le mouvement MeToo, mais son porc à elle, puisque c'est son vocabulaire, ne l'a pas violé. Son porc lui a fait une proposition très indécente. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, il lui a dit « je peux te faire jouir toute la nuit », etc. Et elle a dit non, et il n'a pas insisté. Et la question, effectivement, qui se pose avec la culture du viol, c'est celle de l'amalgame, c'est celle du continuum. Peut-on dire qu'une proposition indécente, qu'une remarque sexiste, qu'un regard appuyé, c'est déjà quelque chose qui va vers le viol? Ou bien faut-il maintenir, là pour le coup, des frontières? Des frontières. Vous parlez de frontières. Est-ce que ces frontières-là ne sont pas aussi très importantes, Clotilde Le Guil?
Il me semble qu'elles sont décisives. Et justement, si j'ai voulu explorer cette maxime « céder n'est pas consentir », qui a une histoire, qu'on peut entendre comme un slogan, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai plutôt exploré aussi comme une énigme. C'est parce qu'il me semble que justement, si on veut, disons, défendre un discours amoureux, il faut pouvoir établir une frontière entre ce qui va être de l'ordre d'un discours amoureux avec tout ce qu'il peut y avoir aussi d'ambigu dans l'aventure du désir, tout ce qu'il peut y avoir aussi quelquefois d'angoissant, hein, mais il faut établir une frontière avec l'expérience d'un traumatisme sexuel. Sur la question de la croyance, moi ce que j'ai voulu indiquer n'a rien à voir avec le tribunal médiatique, comme vous dites, ou judiciaire. La question pour moi est de la valeur d'une parole, notamment dans le champ de la psychanalyse, et de la façon dont finalement un sujet va pouvoir rencontrer un autre qui le croit. Et justement, un autre qui le croit, c'est un autre singulier, ce n'est pas n'importe quel autre. Et donc, je me suis quand même appuyée sur ce point de détail, mais qui m'a semblé important et que j'ai redécouvert à cette occasion, où Freud reçoit une patiente du nom de Dora, qui a un cas très connu dans les cinq psychanalyses, vit quelque chose, disons, de l'ordre d'une où elle se sent presque un objet de rançon entre son père et le mari de la maîtresse de son père. Et en fait, au moment où elle essaie d'en parler à son père, personne ne la croit. Et son père va se renseigner auprès de Monsieur K pour savoir si ce don Dora accuse Monsieur K est vrai ou pas. Et finalement, j'ai été sensible au fait que Freud, au début du XXe siècle, lorsqu'il rencontre cette jeune fille, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ne remet pas en question sa parole. Ce qui ne signifie pas que la cure s'arrête là, bien entendu. C'est ensuite, cette jeune fille va pouvoir aussi explorer la part qu'elle a prise dans le dispositif auquel, d'une certaine façon, elle a consenti. Mais c'est dans ce sens-là, voilà, que j'interprète la valeur, disons, de la croyance. C'est pas au sens où il faudrait d'emblée, dans le cadre d'un tribunal,
oui, ça c'est quand même le cabinet d'analyse.
Moi, c'est dans l'expérience,
dans le huis clos de l'expérience analytique,
que cette écoute reconnaît la valeur de la parole et reconnaît une première vérité qui pourra ensuite venir à se dialectiser, à être renversée. Mais il me semble que cette reconnaissance, disons, donne une valeur à la parole, mais encore une fois, dans le champ finalement d'un lieu qui n'est pas destiné à être rendu public.
Alors, là-dessus, je voudrais faire deux remarques.
Sabine Procoris.
D'abord sur la question du traumatisme. Bien entendu, je vous suis tout à fait lorsque vous faites remarquer qu'il y a dans un certain nombre de traumatismes sexuels, pas forcément tous, et dans d'autres traumatismes, il y a quelque chose d'un silence, pour différentes raisons, qu'on ne peut pas interpréter si rapidement, qui peut s'installer. C'est exact. Néanmoins, c'est sur l'usage du terme de traumatisme, précisément. Lorsque le hashtag balance ton porc la veille de MeToo, du slogan de Alyssa Milano, est sorti le 14 octobre, le 15 octobre c'est MeToo. Balance ton porc, c'est donc cette remarque tout à fait absolument graveleuse d'Éric Brion, dont il s'est excusé le lendemain. Qu'est-ce qu'écrit Sandra Müller? Dans Le Monde, elle explique qu'elle a été gravement traumatisée, et que, d'ailleurs, elle est tombée dans une faille spatio-temporelle. Alors, il faut quand même rappeler que quelques années auparavant, elle avait reçu une gifle de quelqu'un dans un contexte certainement assez sexiste, et qu'elle n'a pas jugé utile d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, mais c'était pas sexuel, paraît-il. Elle, dans son livre, qui s'appelle également « Balance ton porc », elle explique qu'il est temps que les tortionnaires soient réduites en cendres. Bon, je veux bien. Un livre, c'est écrit à la première personne. Mais enfin, quand même, je pense que l'usage du terme de traumatisme, là, pose question et est justifié, si vous voulez, par cette idée d'un continuum. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le continuum. Maintenant, ce que vous dites sur croire dans le cabinet d'analyse, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'il s'agit non pas de croire, parce que dans l'idée de croyance, si on est précis sur les mots, il y a l'idée d'adhésion. Je pense qu'on n'a pas à adhérer à la version de son histoire.
Oui, non, mais on peut écouter certaine bienveillance, quand même. On peut écouter sans scepticisme.
Pardon, je termine, mais il ne s'agit pas de scepticisme. Accorder de la valeur à une parole ne signifie pas enfermer la personne qui parle dans l'adhésion à sa version de son histoire. Donc il faut l'écouter sans scepticisme, sans mettre en cause d'ailleurs la question des faits. D'ailleurs, quoique, il ne s'agit pas de le mettre en cause, mais ce n'est pas inutile par moment d'être en mesure de déceler si effectivement il y a quelque chose qui s'est réellement produit ou pas, parce que ça permet à la personne de se décoller de sa propre adhésion à certaines choses. Mais quand une personne vous raconte quelque chose qui s'est passé, qui est traumatique, elle vous le raconte évidemment dans ses mots, et ce sont ses mots que vous accueillez pleinement. Mais ce qui est important surtout, c'est de laisser l'espace à cette personne pour qu'elle se décolle du fait que ce qui lui est arrivé crée un destin. Vous le dites d'ailleurs, vous le dites parfaitement bien, mais pourquoi employer ce mot de croyance? Pourquoi dire croire? Il suffit de dire entendre. Je pense que c'est suffisant.
Bon, croire c'est... ou reconnaître, voilà, qu'elle reconnaît la valeur de son
dit. Mais bien, reconnaître c'est la valeur dit. Du dit, mais ce n'est pas croire.
Oui, ce n'est pas croire, il n'empêche que Freud a manifesté une sorte, s'est montré hospitalier à cette parole.
Mais bien sûr, voilà. Et Freud en même temps, pardon, j'ajoute une chose, c'est que Freud pendant un certain temps a cru que toutes les patientes qui étaient venues le voir avaient été victimes d'attouchement sexuel, avaient été violées, et à un moment donné il se rend compte, et il le dit dans une lettre à Fliss, qu'en réalité c'est de l'ordre du fantasme. Parce que ce qui est traumatique pour la personne, ce sont en fait ses propres pulsions, et la sexualité infantile, etc. Et donc il dit « je ne crois plus à ma neurotica ».
Oui, enfin, voilà. Il universalise pas non plus, disons, cette interprétation de la parole en disant, dès qu'il est question d'un truc dans la parole, c'est un fantasme.
Non, il ouvre l'espace de la réalité psychique.
L'origine de la psychanalyse, et c'est pour ça que je parle du KMA aussi dans mon livre, c'est quand même la reconnaissance du traumatisme sexuel en tant aussi qu'il produit une amnésie et un silence, qu'il est exclu en quelque sorte de l'histoire du sujet et qu'il va falloir en passer par un cheminement d'associations libres, de retrouvailles avec d'autres événements pour qu'il ressurgisse dans le discours. Et donc il me semble que il faut quand même aussi, dans le contexte actuel dans lequel on est, il me semble qu'il est très important de dire que Freud, le premier, a donné un statut au traumatisme psychique et sexuel.
Bien, alors justement... Il y a un point sur lequel vous seriez d'accord toutes les deux quand même, c'est peut-être de ne pas donner une importance politique décisive à cette question. Parce que ceux qui arguent de la dimension politique refusent de réduire la problématique des violences faites aux femmes à des histoires individuelles, au motif précisément que cela dépolitiserait la question. Pour vous, il y a des histoires individuelles, Clotilde Leveguil, pour vous aussi Sabine Procoris, et c'est là-dessus que vous vous rejoignez. Vous êtes accueillante à la singularité des cas, vous ne dites pas forcément « nous toutes », vous ne dites pas, comme Leïa Slimani, que les femmes deviennent, avec MeToo, une force collective. Il faut laisser la place aux individus, sinon d'ailleurs la psychanalyse n'aurait aucun sens. Mais justement, sur le traumatisme, je voudrais citer, et vous la citez dans votre livre, Sabine Procoris, Samantha Gamer. Elle est la victime recensée de Polanski, puisqu'en effet, il a reconnu qu'il y avait eu viol, il a passé quelques mois en prison et il a dû fuir l'Amérique parce que le juge a rompu le pacte qu'il avait conclu avec toutes les parties et qu'il était menacé, là pour le coup, de 50 ans de prison. Mais Samantha Gamer dit ceci. Il est absurde d'exiger des femmes qu'elles soient éternellement détruites d'une manière ou d'une autre pour savoir ou faire savoir que le viol est un crime. Le viol est un crime. La seule personne à blâmer est celle qui commet le crime. Un point, c'est tout. Mais c'est aussi le seul crime où on exige des victimes qu'elles n'en réchappent jamais. Si on vous cambriole, on vous passe à tabac, vous pouvez être atrocement traumatisé, mais personne ne vous dit qu'il faut ne jamais vous en remettre, sinon vous insultez les victimes de cambriolage et de coups et blessures. En outre, je pense que c'est sexiste et que cela contribue à renforcer les stéréotypes négatifs qui pèsent sur les femmes et le sexe. C'est vrai qu'avec l'idée de traumatisme, on veut aussi que ce traumatisme soit éternel, d'où d'ailleurs le désir de faire du viol, voire de l'agression sexuelle, un crime imprescriptible, voire un crime contre l'humanité. Que pensez-vous de celle qui dit « bah oui, ça a été terrible, mais je m'en suis remise » Sabine Procoris.
Écoutez, je pense que quand même... Bon, alors, plusieurs choses quand même. Sur la question du politique, et du... alors moi je me revendique comme féministe. Hein. Donc la question politique, évidemment, ne m'est pas indifférente. Et comme le dit très bien Catherine Kinsler, alors là on se situe sur le plan du vraiment social et du droit et du politique, elle dit très bien, elle dit la tâche d'un féminisme conséquent, c'est effectivement de... Des questions sérieuses s'agissant de la manière dont les femmes sont maltraitées méritent en effet d'être rendues publiques. Les pratiques intolérables dont elles font l'objet depuis des siècles doivent être soulevées, instruites et punies. La législation le permet. Et de manière sévère, ce qui est vrai, selon une échelle rationnelle qui va de l'infraction au délit et au crime, en l'occurrence le viol. Il s'agit de l'appliquer et aussi de la faire progresser en sortant d'un silence complice, là je vous rejoins, trop longtemps observé et en respectant les procédures. Telle est en la matière et entre autres la tâche d'un féminisme conséquent conséquent, et là je pense que c'est très important sur la question du singulier et du collectif, conséquent en ce qu'il montre et assume que l'état des droits des femmes est la mesure des droits de toute personne en général. Il suffit que le droit d'une seule femme soit bafoué pour que celui du corps entier de la nation le soit, et elle dit exactement ce que dit Clémenceau sur Dreyfus. Il suffit qu'un seul Français soit, son droit soit bafoué pour que la nation tout entière soit bafouée. Alors ça, c'est sur le plan du féminisme. Maintenant, la question du traumatisme. Bah, c'est comme l'emprise, c'est comme tout ça. Ce sont des termes qui ont évidemment une valeur clinique et descriptive absolument fondamentale, mais précisément qui sont tout à fait aplatis dans l'usage à la fois médiatique et militant, qui en effet, vous en serez d'accord avec moi. Et je pense qu'en effet, votre travail vise à redonner de la complexité. Mais c'est employé à toutes les sauces, et c'est pour cette raison-là que, comme ce qui vaut, c'est le ressenti des victimes, ou dites qu'on n'appelle même plus des plaignantes, comme ce qui est la mesure de la vérité, c'est le ressenti traumatique, ben on dira « je suis traumatisée parce qu'on m'a dit « t'as de beaux seins ». Ben moi, je trouve que ce n'est pas acceptable dans un état de droit, et c'est un mensonge psychiquement et cliniquement.
Oui, finalement, ces deux dimensions, le collectif et l'intime. Il me semble qu'il ne faut quand même pas dénigrer la puissance du politique, puisque si on a eu une nouvelle formulation de la loi sur les infractions sexuelles, c'est parce qu'il y a eu aussi un mouvement politique de dénonciation et simplement de révélation, voilà, qui a en quelque sorte conduit à une sensibilisation nouvelle à ces questions, et on en est venu à ce changement de la loi. Mais en effet, je suis là, je citerai Marguerite Duras. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Duras qui dit qu'il n'y a pas de solution politique aux problèmes personnels. C'est pour ça que j'ai commencé par dire bon. Effectivement, il y a eu ce changement de la loi qui est très important, mais moi, en tant que psychanalyste et aussi en tant que philosophe, évidemment, je ne considère pas que une expérience traumatique sexuelle puisse trouver à se dépasser simplement dans le cadre même d'une procédure judiciaire. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il ne suffit pas d'ailleurs de gagner une procédure judiciaire pour se sortir d'une expérience traumatique. Donc, effectivement, je pense qu'il y a, un point qui est essentiel, et je trouve que c'est aussi le point qu'aborde Vanessa Springora dans son livre, un point qui est essentiel, c'est d'essayer aussi finalement de se plonger dans ce qu'il y a de plus singulier dans l'expérience traumatique pour pouvoir trouver une langue à soi, parce que Philomèle, elle ne crie pas, elle trouve une langue à elle en brodant en effet cette navette, et cette broderie finalement c'est sa langue à elle, et il me semble que c'est aussi ce que nous enseigne la psychanalyse, c'est-à-dire que à retrouver une langue à soi pour dire ce que personne d'autre ne peut dire à ma place.
Alors, bon, j'aimerais que tout à l'heure nous parlions aussi de ce qui a lancé le mouvement MeToo sur le plan politique, c'est-à-dire la séquence Adèle Haenel sur Mediapart, mais un mot, oui, puisque j'ai fait référence, sur Vanessa Springora. C'est très intéressant, j'ai lu attentivement son livre, c'est un livre fort, j'ai lu aussi, parce que je l'avais, La prunelle de mes yeux de Gabriel Matzneff, qui était disponible en poche et qui raconte la même histoire. Et c'est extrêmement intéressant parce que cet homme, dont on peut dire que c'était un pervers, puisque en effet il répétait sans cesse les mêmes expériences, le galop d'enfer, c'est-à-dire il collectionnait les très jeunes filles, et là tout d'un coup, il veut la rédemption de son galop d'enfer, il veut tout arrêter, il congédie les autres maîtresses, il est fou d'amour, et il est surpris par l'amour. Il est surpris par l'amour, et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'elle consente. Bah, elle est jeune, hein, c'est toujours, elle a 14 ans. Et donc maintenant, la présomption de non-consentement est à 15 ans. Mais à l'époque, ça ne l'était pas, et ça l'est devenu tout à fait récemment. Bon, bref, non seulement elle consent, mais elle va vers lui, elle se jette sur lui. Ça ne l'excuse pas. Je ne dis pas que ça l'excuse. Simplement, c'est ça qui est très intéressant. Elle découvre, ensuite, après des moments amoureux, extatiques, en lisant l'œuvre de Massenet, que c'est effectivement un collectionneur, un sérieux séducteur. Et donc, elle en conçoit une jalousie terrible et elle s'interroge rétrospectivement sur la nature de son consentement. Mais là, il y a un véritable problème. Si on oublie, la grande jeunesse, c'est que ça arrive souvent, ça. C'est-à-dire, des femmes vont vers des hommes, couchent avec des hommes et ils se révèlent très décevants et quelquefois muflent après. Mais est-ce que ça doit vouloir dire, puisque c'est un mufle après, je n'ai pas consenti avant? Donc là, si vous voulez, c'est à ce moment-là, il y aurait, si vous voulez, le non-consentement rétrospectif. Mais or, vous le dites vous-même, il n'y a pas de consentement éclairé, il y a un élément d'incertitude. Toute relation amoureuse, sexuelle, relève du pari. Et quand on perd le pari, on a consenti quand même, non?
C'est juste sur le consentement, c'est effectivement, cette phrase est essentielle que vous citez. Il n'y a pas de consentement éclairé. Moi, c'est un postulat duquel je pars. Et je trouve que le livre de Vanessa Springora, justement, elle a choisi de l'intituler le consentement. Et tout l'intérêt de ce livre est qu'elle explore son propre consentement. C'est un livre sur elle, c'est pas un livre sur lui, c'est un livre sur elle, ce n'est pas un livre qui est habité par des affects de haine, c'est un livre où elle s'interroge sur ce à quoi elle a consenti et finalement ce moment de dépersonnalisation qu'elle a rencontré à l'issue de cette histoire qui témoigne en fait d'un forçage qui a eu lieu dans son corps mais qui n'a pas rencontré de mots justement. Et donc moi justement cette distinction je pense qu'elle permet aussi d'éclairer, c'est la distinction entre céder et consentir dans quel sens? Au sens où elle a consenti en effet à une aventure qu'elle croyait amoureuse, et finalement son corps a cédé à une situation traumatique, et il me semble que 30 ans plus tard, avec cet effet d'après-coup, elle peut explorer cette énigme.
Oui, moi je ne partage pas du tout votre version. D'ailleurs, vous n'avez pas lu visiblement La Prunelle de mes yeux, donc ça biaise un peu votre analyse. Bon, laissons Vanessa Springora de côté. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur c'est merveilleux que la loi a changé tellement vite, grâce à un mouvement politique. Je voudrais quand même vous rappeler, parce qu'il y a quand même une histoire du féminisme, que les luttes féministes ont de longue date permis que la loi change, mais pas sous ce genre de pression. Quand il y a eu le procès Gisèle Halimi, Marie-Claire, par ailleurs sur la question de la peine de mort, pas sur la question féministe, des procès très importants, qui n'étaient pas des procès politiques, mais des procès à portée politique, ont permis petit à petit que le législateur change la loi grâce à des luttes qui en effet ont été menées. Là, moi je ne considère pas que quand on change la loi en 3 mois, sous la pression de l'opinion publique, n'importe comment, il suffit de lire le petit livre de Marie Dauzé qui vient de sortir sur la prescription, qui s'appelle « Éloge de la prescription », on fasse beaucoup de progrès. Parce que je pense aussi bien sur la question de la présomption de non-consentement. Il y a une méprise extraordinaire sur ce que c'est qu'un adolescent, ce n'est pas une manière de responsabiliser les adolescents, et sur la question de la prescription, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et en plus, Marie Dauzé le montre, c'est parfaitement déceptif. Après, vous dites que on va peut-être pas parler longtemps de Springora, etc. On en a déjà parlé dans une autre émission, si on veut revenir sur la DLM, mais je voudrais revenir quand même sur votre titre. Céder n'est pas consentir. Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, que cette formule est prise dans une histoire. Mais je me suis étonnée, je ne sais pas si c'était délibéré de votre part, que vous ne citiez pas un classique de l'histoire du féminisme, qui est un article de Nicole Claude Mathieu, l'anthropologue. Son article très long et très informé s'appelle « Quand céder n'est pas consentir ». Il est repris dans un ouvrage qui s'appelle « L'anatomie politique » publié en 1991. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, même si je ne partage pas nécessairement toutes ses analyses, elle dit une chose que j'ai trouvé remarquablement intéressante pour différencier, c'est la situation où on cède, pas la situation où on est forcé, la situation où on cède, une femme cède, et la situation où on consent. Elle dit, en fait, pour les femmes, les normes dans toute société et les combats féministes, en Occident en tout cas, et dans d'autres pays, sont de desserrer cet étau, c'est qu'il y a un double bind, c'est-à-dire une injonction contradictoire, une norme contradictoire qui pèse sur les femmes, qui est que d'un côté, elles doivent céder, et d'un autre côté, elles ne doivent pas céder. l'honneur, l'honneur des hommes d'ailleurs, la virginité, etc. Donc ce double bind crée un étau qui fait que l'espace pour un consentement n'est pas possible. Et ce sont les luttes féministes, entre autres, qui ont permis que se desserre ce double bind et que la liberté sexuelle soit la condition de l'égalité sexuelle. Mais c'est important de le replacer dans l'histoire du féminisme, parce que vous partez du slogan des colleuses, et c'est un slogan.
Pas seulement, je pars aussi je pars du livre de Geneviève Fraisse, consentement, qui est le premier livre que je cite, et Geneviève Fraisse, dans son livre, consacre un chapitre entier, en effet, à présenter les
Je connais très bien ce livre, puisque j'en ai fait une recension, mais Geneviève Fraisse, aujourd'hui, a rejoint la cohorte des MeToo et des intersectionnels.
Elle fait un commentaire de cet article, et elle rappelle aussi que cet aphorisme vient de Coderlo de Laclos, d'un texte
absolument,
sur l'éducation des jeunes filles.
Que cite Nicole Claude Mathieu.
Voilà, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est de donner un autre sens au mot céder que le sens que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que je me suis, approprié d'une certaine façon cette maxime pour en faire un questionnement à partir aussi de ce que la psychanalyse, m'a appris à la fois comme expérience et aussi ce que j'ai rencontré dans les séminaires de Lacan. Et il donne au verbe céder un statut particulier. Donc c'est vrai que le sens que je donne à céder n'est pas le sens courant. C'est pas simplement le céder à la tentation. C'est le sens que Lacan donne dans le séminaire de l'angoisse sur le céder à la situation traumatique. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une cession dans le corps.
Oui, mais alors, là-dessus, alors un mot sur Geneviève Fraisse, qui en effet, maintenant, s'est un peu radicalisée, puisqu'elle dit, je crois, il faut que les têtes tombent, c'est cela, et elle a démontré, je crois, sur cette antenne, que J'accuse avait pour objet de sauver le patriarcat, puisque en faisant de Picard le personnage principal de J'accuse, l'intention dissimulée de Polanski est de sauver l'armée, c'est-à-dire l'institution, c'est-à-dire le patriarcat. Le patriarcat, fin de citation. Mais j'en reviens, céder n'est pas consentir. Mais après, on parle d'Adèle Haenel, je le veux. Hein.
Alors allons-y.
Non, parce que nous avons tous, je crois, et nous continuons à lire des romans. Et des romans qui se passent dans une autre époque, mais qui ont quand même quelque chose à nous apprendre sur l'amour. Or, on le voit dans les romans, les hommes ont longtemps fait leur cours. Ils continuent d'ailleurs un peu à faire leur cours, du moins j'espère. Et faire sa course, c'est quoi? C'est faire le siège. C'est-à-dire obtenir, malgré tout, les faveurs de la femme. Et c'est très difficile, notamment quand il s'agit d'un adultère. Ça prend du temps. Ce qui fait que, dans les plus beaux romans d'amour, la femme cède. Anna Karénine cède à Vronsky. Mais quand elle cède à Vronsky, elle est folle amoureuse de lui. Simplement, quand on dit « céder n'est pas consentir », c'est peut-être s'orienter vers une lecture où on dira « bah finalement, Vronsky a violé Anna Karénine ». Vous voyez, il y a quand même un moment où céder voulait dire quelque chose.
Oui, c'est pour ça que j'ai voulu explorer cette maxime, parce que finalement, le sens que vous donnez là au verbe céder à un partenaire, moi je l'entends comme consentir.
Ah oui,
c'est-à-dire c'est l'aventure du consentement en tant que non éclairé, justement. Et c'est la beauté du consentement, c'est-à-dire ce moment de dessaisissement de soi, de déprise de soi dans l'aventure amoureuse. Et c'est pour ça que je me suis dit finalement, mais quel sens il faut donner au verbe céder si on veut le distinguer du consentement? Eh bien peut-être que Lacan nous éclaire là-dessus avec cette question de la cession traumatique, c'est-à-dire du fait de subir une infraction dans son corps qui n'a rien à voir avec, en effet, céder à un partenaire qui sait nous parler.
Bon. Je retiens simplement l'effet que vous dites que le consentement ne peut pas être éclairé, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une doctrine du consentement qui consiste à vouloir contractualiser le rapport amoureux et à penser qu'en effet, il n'y a de salut que dans la transparence, c'est-à-dire la négociation ou, dirait Marion Garcia, la conversation. Les choses sont plus compliquées
tout à
que
fait,
ça. Mais
tout à fait.
Nous sommes
mais
alors, Adèle Haenel,
oui,
s'il
alors,
vous
mais
plaît.
Juste quand même un mot sur cette histoire. Je pense que le consentement et le désir se nouent dans les relations amoureuses, mais qu'il faut quand même dire que Anna Karénine, par exemple, à quoi cède-t-elle? Pas à Vronsky, elle cède à son propre désir. C'est, on oublie toujours que c'est à soi qu'on. C'est à, et je dirais même pas qu'elle y cède, elle y consent.
C'est ça.
Et consentir, c'est un acte non pas de désir mais de volonté. Ça veut pas dire que. Alors, en quoi c'est éclairé? Pas au sens où on connaît les conséquences, même dans le champ juridique. Quand vous signez pour vous faire opérer, vous allez être endormi, vous savez pas ce que va faire le chirurgien et vous n'avez aucune compétence. Ça veut dire quoi consentir? Ça veut pas dire savoir tout, ni ne pas. Ça, c'est juste savoir assumer qu'on prend un risque et qu'on se confie à. Voilà. Maintenant, revenons à Adèle Haenel.
Oui, parce que vous dites c'est un mouvement politique. Eh bien, il est vrai. Mais là, la séquence Mediapart Adèle Haenel a joué un très grand rôle dans la mobilisation, notamment du milieu du spectacle et donc du monde du théâtre aujourd'hui. Et il faut revenir sur cette séquence qui occupe une grande place dans votre livre. Vous avez visiblement regardé plusieurs fois ce film Mediapart. Alors racontez-nous.
Voilà. Alors déjà, je pense que... Alors déjà, juste un mot sur le titre de mon livre, hein, Le Mirage, Me Too. Mirage, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que il y a une illusion dans l'idée qu'il y a une libération de la parole. Je pense que c'est une illusion. Je pense que c'est un enrégimentement de la parole sur un mode extrêmement conformiste, si vous voulez. Et ça ne mange pas de pain, de dire moi aussi. L'autre chose, c'est que bien entendu, on nous parle du milieu du spectacle, du milieu du cinéma, etc. Mais je ne suis pas certaine... Et si on parle avec des avocates, on s'en aperçoit que la petite caissière qui se fait harceler dans son supermarché par son petit chef, ça lui a apporté beaucoup, MeToo. Vraiment, j'ai des doutes.
Et quand on parle, que si, quand même. Bah,
quand on parle avec des avocates, on voit que bah, ça l'empêche pas de... Il faut qu'elle mange, et puis si elle veut porter plainte, etc. Enfin, c'est, là, il y a une glamourisation extraordinaire, je dirais, de l'identité
alors,
victime.
Alors, dans cette glamourisation, voilà, Adèle Haenel joue un rôle. Allez-y, parce que j'aurais
Adèle
une autre question sur le consentement.
Adèle Haenel arrive au bout de... la séquence Adèle Haenel arrive au bout de 2 ans. MeToo a atteint sa vitesse de croisière. Nous sommes en 2019. Et un beau jour, voilà qu'il y a ce que tout le monde a appelé un témoignage, que moi j'appellerais plutôt une séance d'accusation publique, sur le plateau de Mediapart. Et sur le plateau de Mediapart, vous avez Edoui Plenel, vous avez une journaliste qui s'appelle Marine Turki, vous avez Iris Bray qui apparaît en quatrième position, plus tard dans la deuxième partie de la soirée, et Adèle Haenel qui... relate et est là pour relater des pour accuser Christophe Ruggia avec qui elle a tourné un film quand elle était adolescente. Elle était, dit-elle, sous emprise, voilà l'emprise de Christophe Ruggia, et il se serait livré à ceci, cela, des attouchements. Et alors c'est assez étonnant parce que j'ai été d'abord la première chose qui m'a frappée en voyant cette séquence, c'est l'espèce de discordance entre la teneur de la séquence que j'avais trouvée tout de même assez indigente et puis assez peu axée sur la question des faits. Et quand il s'agit des faits, c'est d'une drôle de façon, on y viendra. Et puis le phénomène d'hypnose collective, la France entière a été hypnotisée par cette séquence. Alors du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai raté? Donc, la séquence ayant été transcrite sur papier, complètement, j'ai pu me rendre compte de comment elle fonctionnait. Alors, il y a d'abord une heure où vous avez donc la journaliste Adèle Haenel et Edoui Plenel. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au cours de cette heure, à part le fait que le mot victime est prononcé un nombre incalculable de fois, je venais de lire un livre de personnes, de femmes syriennes, de témoignages de femmes syriennes qui avaient été victimes, elles, soit de Bachar el-Assad, des geôles d'Assad, soit étaient tombées aux mains de Daesh. Je vous laisse imaginer ce qu'elles ont pu endurer. Le mot victime n'apparaît pas une seule fois. Bon. Le mot, alors, Adèle Haenel, le mot victime, le mot survivante, tiens, le mot survivante, étonnant. Et puis, ce qui apparaît à la fin, vous avez quelque chose sur les faits, dans une lettre à son père, dans laquelle Adèle Haenel dit une chose stupéfiante. Elle dit, dans cette lettre, il n'est pas passé à l'acte, parce qu'en gros, elle vous explique que c'est parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était.
Voilà.
Donc c'est le viol par abstraction.
Il ne voulait pas voir les choses en face. Ce n'est pas par respect pour l'enfant que j'étais qu'il n'est pas passé à l'acte. C'est par peur de se regarder en face.
Alors ensuite,
il ne m'a pas violé parce que c'est un violeur.
Voilà, c'est ça. Donc après, dans le making of de la séquence, il y a tout l'article de Marine Turki où il y a tout ce que Adèle Haenel lui a dit. Alors là, elle accuse de différents attouchements, etc. Puis elle dit qu'elle qu'elle était sous emprise, enfin en même temps d'une façon un peu étrange, puisque elle était sous emprise, donc elle allait chez lui toutes les semaines, mais dès que la porte était refermée, elle était plus sous emprise, puisqu'elle lui résistait. Enfin bon, tout ça est très confus. Alors la France entière est hypnotisée, Christophe Rugia est immédiatement viré de la Société des réalisateurs de films, il y a un article dans Libération en forme de nécrologie, et ce type est mort, là, d'une certaine façon, mort sociale. Alors la séquence est extraordinaire, elle justifie, elle dit qu'elle a raison parce qu'elle est devenue puissante, c'est une femme puissante maintenant, et alors ce qui m'a frappé, je sais pas vous si vous vous en souvenez de ça, c'est que il est question tout au long de la séquence, pas tellement de ce qu'a fait ou n'a pas fait Christophe Rugia. On n'est pas là pour en juger, hein. pour le trancher. On n'est pas des juges d'instruction, ni des enquêteurs, ni les spectateurs non plus ne le sont. C'est le peuple intersectionnel.
Oui, c'est Plenel qui Plenel. Parle à peuple.
Sans arrêt, pas seulement.
Peuple intersectionnel.
Sans arrêt. Et puis la deuxième partie de la soirée, c'est Iris Bray qui a écrit sur le regard féminin, qui ne parle que de Polanski, dont le film sortait 3 jours plus tard. Et qui ne l'appelle que Violanski d'ailleurs, et pareil, survivante, victime, etc. Donc là, moi, ça m'interroge, si vous voulez, et ça a lancé quelque chose. Et l'affaire Enel, si vous voulez, elle m'a intéressée. Pourquoi ? Parce que il me semble qu'elle a permis de mettre à jour, de manière absolument évidente et claire, à condition d'étudier la chose, toutes les logiques qui gouvernent ce mouvement politique que je tiens pour un mouvement totalitaire. Alors je sais que c'est contre-intuitif de le dire, mais je le soutiens, je le démontre, je crois, dans ce livre.
Oui, alors en plus, Iris Bray a écrit un livre, Le regard féminin, et elle dit pour que les conditions du regard féminin sont celles-ci, dans un film, le personnage principal s'identifie en tant que femme, l'histoire est racontée de son point de vue, son histoire remet en question l'ordre patriarcal. Et grâce à la mise en scène, le spectateur, la spectatrice ressent l'expérience féminine. Et c'est là en effet qu'il y a quelque chose d'un peu dangereux, parce que ça pousse à une nouvelle version du réalisme socialiste. Oui. C'est-à-dire une femme doit être un personnage positif, d'une part, et d'autre part, remettre en cause l'ordre patriarcal. La liberté de l'artiste, là, se trouve singulièrement réduite. Mais je voudrais vous poser une dernière question encore une fois, céder et consentir, Clotilde Le Guil. J'ai repensé au Lys dans la vallée de Balzac. Ivre de vertu, Madame de Morphose se refuse à Félix de Vandès et lui écrit une lettre sur son lit de mort. Ah, si dans ces moments où je redoublais de froideur, vous m'eussiez prise dans vos bras, je serais morte de bonheur. J'ai parfois désiré de vous quelque violence, mais la prière chassait promptement cette mauvaise pensée. Et Mona Ouzouf, dont personne ne doit pouvoir suspecter le féminisme, dit, commande cette phrase, parfois mais pas souvent ni toujours, quelques violences mais pas toutes. Et j'ai peur que cette subtilité devienne aujourd'hui inaudible, toute violence est criminelle, il n'y a plus de place à l'époque de ce grand combat pour le monde de perplexité, d'ambivalence, d'ambiguïté, où nous fait entrer précisément la littérature, éventuellement la psychanalyse, et aussi, d'une certaine manière, le droit. Donc on a le sentiment, aujourd'hui, que ce mouvement politique se fait au détriment de la sagesse juridique, de la sagesse du roman et de la sagesse analytique.
C'est pour ça que j'accorde une grande place à la littérature dans mon livre, et notamment, par exemple, à L'amant de Marguerite Duras, parce qu'il me semble que c'est un livre aussi qui témoigne d'un consentement non éclairé, d'un consentement qui est décrit au sein d'une première fois, qui, d'une certaine façon, comporte aussi un franchissement, donc peut-être une part aussi de violence.
Elle est très jeune.
Et elle est très jeune, absolument. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce livre, parce que justement, si on le met en regard avec le consentement de Vanessa Springer, on s'aperçoit que on ne peut pas s'en tenir simplement à des données comportementales ou à des critères d'âge, mais qu'en effet, il faut aussi pouvoir faire une distinction entre ce que vous êtes en train de faire valoir à Alain Finkielkraut à partir du Lys dans la vallée, c'est-à-dire justement toute l'ambiguïté de ce désir et de la pulsion, puisqu'évidemment, dans le désir, il est question de pulsion sexuelle et de la façon dont, là, en l'occurrence, Madame de Morsauf pouvait attendre de Félix de Vandenesse jeunesse qu'il ose, qu'il y aille d'une certaine façon. Mais en même temps, il me semble que, en tant qu'intellectuel, nous avons aussi peut-être la tâche de faire entendre cette distinction qui implique des nuances, en effet, que la littérature peut faire entendre entre toute cette aventure du désir, hein, et la rencontre avec un forçage qui, là, en effet, coupe la langue au sujet.
Oui.
Eh bien,
Samine Procoris.
Je suis ravie de vous l'entendre dire, mais enfin, comment dire ? À propos de forçage, je m'étonne énormément que vous puissiez écrire dans la fin de votre livre que Camille Kouchner, vous la comparez avec Antigone. Alors là, on n'a pas le temps de parler de ça, mais là, ça me semble un sacré forçage.
Camille Kouchner, la Familia Grande,
voilà.
Le témoignage qu'elle livre...
À la place de son frère, qui ne souhaitait pas du tout qu'on parle de cette histoire, je suis très étonnée...
Qui a dit
de...
d'ailleurs qu'il avait surmonté son traumatisme.
Je suis très étonnée de lire cela, et ce qui me gêne dans votre approche, autant je partage absolument certains de vos très beaux développements dans toute cette subtilité de la nuance, etc., en même temps j'ai l'impression qu'ils sont opacifiés, vos développements, par le fait que vous êtes comme, il me semble, moi, je vous ai senti comme prise en étau entre deux dogmatismes. Le dogmatisme MeToo et le dogmatisme MeToo, c'est merveilleux, c'est formidable, les changements de la loi à toute vitesse, et le dogmatisme, un certain dogmatisme, pardonnez-moi de le dire comme ça, lacanien. Or, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour penser et pour être analyste, et que ce que vous écrivez serait beaucoup plus fort si vous n'étiez pas n'emprisonniez pas le lecteur là-dedans.
Alors, Clotilde de Leguille, répondez à cette double critique.
Ce que je peux te dire, c'est que c'est un livre très intime. En effet, un livre que j'ai écrit aussi depuis mon expérience de l'analyse et non pas depuis des discours dogmatiques et que, au contraire, ma visée était plutôt de trouer les dogmatismes et d'introduire justement des nuances qui ne peuvent s'entendre que depuis peut-être aussi un certain rapport à l'inconscient.
Bien, alors, je crois que... Tout est dit. Enfin, la conversation aurait pu continuer. Et je rappelle en effet que Camille Kouchner a écrit ce livre, qui a été perçu par nombre de lecteurs comme la victime, alors qu'elle n'est pas la victime, mais la sœur de la victime, qui a pu souffrir aussi de ce qui est arrivé, de ce qu'on lui a appris. Et vous rappelez également, Sabine Procoris, la manière dont le livre a été accueilli par une presse enthousiaste, mais surtout les deux journaux dont Louis Dreyfus, le compagnon de Camille Kouchner, et le grand patron, c'était, ils ont fait une première page, Le Monde et l'Obs, dès la parution du livre. Et là, c'est pas MeToo, mais c'est MeToo-Too, si on peut dire. Enfin bref. Mais en effet, nous n'avons pas le temps d'aborder la question plus avant. Je voudrais rappeler les titres de vos livres. Clotilde Le Guil, Céder n'est pas consentir. Ce livre est publié aux Presses universitaires de France. Le Mirage MeToo, Sabine Procoris, publié, lui, au Cherche Midi. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger.